Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'air et de l'espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec un récit sur la première victoire aérienne. Le 5 octobre 1914, Joseph Franz et Louis Queneau abattent un avion allemand et deviennent ainsi le premier équipage de l'histoire à remporter une victoire aérienne. Cet événement, qui peut sembler aujourd'hui anecdotique, marque pourtant l'avènement de la chasse.
Je suis le sergent Joseph Franz et je pilote un avion de reconnaissance, le voisin LA-3. Cet appareil biplan est propulsé par un moteur de 110 chevaux situé à l'arrière du fuselage. Sa structure, qui est entièrement métallique, lui donne un faux air de criquet. Il est doté d'une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm fixée sur un trépied. Ainsi donc, l'avion qui, à la naissance du siècle, réalise des exploits sportifs, est maintenant dévolu à des missions de reconnaissance et d'observation. Je suis affecté à l'escadrille V-24 qui stationne sur le terrain d'aviation Léry, non loin de la ville de Reims. Lors des missions aériennes, je suis toujours accompagné du caporal Louis Queneau qui assure le rôle de mitrailleur. Parfois, nous effectuons des missions offensives en larguant sur les troupes allemandes des obus ou encore de longues fléchettes en acier. En ce début du mois d'octobre 1914, les avions de notre unité participent à la préparation de l'offensive française à Brimont, sur le plateau de Craonne, futur théâtre de la bataille du Chemin des Dames, en effectuant des missions d'observation et de bombardement. Ce matin du 5 octobre 1914, j'enfile un manteau et un pantalon en peau de bête, tenue certes pas très réglementaire, mais pourtant nécessaire pour lutter contre le froid intense qui règne en altitude. Je m'installe dans la carlingue qui ressemble à une baignoire. Queneau prend place derrière moi avec à ses pieds ses 6 obus qu'il devra larguer au petit bonheur la chance sur les troupes ennemies. Au-dessus de ma tête se trouve la mitrailleuse dont la fourche mobile permet de balayer l'horizon à 180 degrés. Il est 8 heures et je décolle pour atteindre 2000 mètres d'altitude. En dessous de moi, j'observe les lignes de tranchées et les trous d'obus qui se succèdent comme d'interminables balafres noirs dans ce paysage ocre et blanc. J'aperçois aussi les soldats français qui, alertés par le ronronnement du moteur, lèvent le nez pour nous voir passer. Je cherche dans le ciel un avion ennemi. C'est alors que j'aperçois un point noir qui vole non loin de nous. C'est un Aviatik B1, un avion de reconnaissance allemand. Il est une cible facile car il est lent et parce que ses ailes en biplan gênent la vision périphérique de l'équipage. Je vois distinctement le pilote et l'observateur qui est armé d'une simple carabine. Je change ma trajectoire pour attaquer cet intrus. Ce n'est pas la première fois que nous engageons le combat. À 11 reprises, Queneau et moi avons déjà tenté d'abattre un appareil adverse. Fort de cette expérience, je sais désormais qu'il nous faut nous approcher à moins de 10 mètres et tirer au coup par coup car notre mitrailleuse présente le fâcheux défaut de s'enrayer inopinément. Afin de permettre à Louis d'ajuster son tir, je décide de me placer dans l'axe de l'avion ennemi, légèrement en arrière et un peu au-dessus. Dans une telle configuration, l'aviatique est gênée tant par son moteur que par l'hélice installée à l'avant, mais aussi par les empennages de l'arrière qui limitent le tir de l'observateur allemand. Je ne sens alors plus le froid et me concentre sur le pilotage pour maintenir l'avion qui, tel un bateau dans la houle, est secoué par les turbulences de l'air. Cette ondulation vient nous rappeler combien nous, pauvres humains, sommes fragiles et gauches dans les airs. Queneau, qui est debout derrière moi, commence à tirer et les premières salves claquent dans l'air. Le pilote allemand, d'abord surpris, tente de nous échapper en se lançant dans un piqué accentué, tandis que son observateur riposte avec sa carabine. Manque de chance. Notre mitrailleuse s'enraille après 47 coups. J'entends que nos gueuler. Maudit matériel! Moi aussi, j'enrage de voir s'éloigner encore une fois l'avion allemand. Mais loin d'abdiquer, Louis démonte la culasse de la Hotchkiss pour en extraire la cartouche bloquée. Je reste dans le sillage de l'allemand qui croit être tiré d'affaire. Après un interminable silence, j'entends de nouveau les coups de feu. D'un seul coup, je vois l'aviatique fumer, se cabrer, puis virer à gauche avant de piquer à la verticale. Je croise le regard de l'observateur allemand qui s'accroche fermement à la carlingue de son avion. Son regard est empli de panique et de désespoir. Malgré tous les efforts du pilote pour maîtriser son avion en flammes, l'aviatique s'écrase dans les marais près de Joncherie-sur-Vesle. Je pose notre brave voisin à proximité de l'avion allemand, détruit. La fureur du combat est passée et j'ai de nouveau froid. Je découvre alors avec trouble les restes carbonisés du pilote, le sergent Wilhelm Schichting et de l'observateur, le lieutenant Fritz von Zangen, qui appartiennent tous deux à la Feldfliegerabteilung 18. Je prends conscience que le temps des aviateurs romantiques est révolu. Désormais, le pilote est un chasseur acharné qui poursuit sans relâche sa proie. Il ancre l'avion et son équipage dans la guerre et en fait un instrument de mort. Nous sommes rejoints par d'autres soldats et par le général Louis Franchet d'Esperey qui vient assister à ce premier combat aérien. Il nous félicite chaleureusement pour cette première victoire aérienne. Le 11 octobre 1914, le sergent Joseph Franz et caporal Louis Queneau, qui viennent de remporter la première victoire aérienne, reçoivent respectivement la croix de chevalier de la Légion d'honneur et la médaille militaire. Au début du mois de novembre, le général Joffre, commandant en chef des armées françaises sur le front occidental, informé de cet exploit, discerne déjà dans l'aéroplane un outil de combat à part entière. L'importance et l'intérêt du combat aérien ainsi avéré, le haut commandement autorise le pilote Roland Garros à poursuivre ses recherches sur un système de tir à travers l'hélice qui donnera naissance au premier chasseur monoplace.